Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Diaran Diaye.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on fume trop, il n'y a pas que le cancer du poumon ou les problèmes cardiaques comme risque. Il y a aussi la BPCO, 4 initiales pour désigner la bronchopneumopathie chronique obstructive, une inflammation des bronches qui conduit à une insuffisance respiratoire grave. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la BPCO et on va en parler dans Priorité Santé. La BPCO provoque une obstruction permanente et progressive des voies aériennes, empêchant de respirer avant d'asphyxier et même de tuer. Plus on commence à fumer jeune, plus on fume longtemps et plus le risque de développer la maladie augmente. Longtemps considérée comme une pathologie d'homme à cause du tabagisme, la BPCO touche de plus en plus les femmes. Le tabagisme de la population féminine a entraîné une augmentation de 40% du nombre de femmes atteintes. Et l'OMS prévoit que cette pathologie deviendra la troisième cause de décès dans le monde en 2030. Mais près de 2 malades sur 3 ne sont pas diagnostiqués. En France, elle touche 3,5 millions de personnes. Pour autant, cette maladie reste encore méconnue. Alors, quels sont les symptômes de la maladie? Que se passe-t-il au niveau des bronches et des poumons? Quels sont les facteurs d'évolution, les traitements et les moyens de prévention? On va en parler avec le docteur Frédéric Le Guillou, qui est en direct de France Bleu La Rochelle. Il est pneumologue et président de l'association BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Bonjour docteur Le Guillou.
Bonjour.
Patrice Scanu est également au téléphone avec nous. Il est atteint de la BPCO et nous apportera son témoignage. Bonjour à vous, Patrice Scanu.
Bonjour à vous et à vos auditeurs. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et durant l'émission, nous retrouverons au Togo le docteur Stéphane Adambounou, pneumologue et spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil du CHU de Lomé au Togo. Enfin, entretien avec le docteur Bernard Pécoul, directeur exécutif de la fondation DNDI, l'initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Frédéric Le Guillou, j'en ai un petit peu parlé durant l'introduction, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette BPCO? Que se cache derrière cette maladie?
Oui, derrière cette maladie se cachent essentiellement des habitudes de vie au départ, puisque dans 85% des cas, elle est secondaire au tabagisme. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser évidemment les personnes qui fument et qui peuvent être atteintes de BPCO, bien évidemment, mais toujours est-il que c'est responsable d'une pathologie qui peut être grave, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, et qui peut être évitable. Donc ça, c'est deux points extrêmement importants. Mm-hmm. Donc ça entraîne, comme vous l'avez dit, une inflammation dans les voies aériennes qui se rétrécissent, qui s'obstruent et qui sont responsables de sécrétion de mucus. Hein, c'est ce qui est responsable en fait de la toux et des expectorations, des crachats si vous préférez, que connaissent bien les patients, et également d'un essoufflement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fumeur qui tousse le matin ou qui crache, ce n'est pas normal. Ce sont les premiers signes de la maladie qui est très longtemps sous-estimée, que ce soit par le patient lui-même parce que ça le met en porte-à-faux vis-à-vis de ses habitudes, vis-à-vis du tabac, et qu'il n'a pas envie d'en entendre parler, mais aussi des professionnels de santé qui considèrent également cela presque normal qu'un fumeur tousse. Ce n'est pas normal, ce sont les premiers signes de la maladie, et c'est là où il faut agir dès le départ pour mieux la détecter, car mieux détectée, mieux prise en charge, on évite les complications qui peuvent être assez graves.
Donc j'ai vu qu'il y a souvent tendance à banaliser en fait cette bronchite ou cette toux. La BPCO, elle est souvent confondue avec une bronchite ou alors la toux du fumeur. Alors quand faut-il consulter ?
Exactement, vous avez parfaitement raison, c'est complètement banalisé, c'est un problème. Du coup, 70% des personnes ne sont pas diagnostiquées. Donc dès qu'on commence à avoir les symptômes, si on a plus de 35 à 40 ans, que l'on a l'habitude de fumer depuis une quinzaine d'années environ, presque entre 15 et 20 cigarettes par jour, que l'on tousse le matin ou que l'on est essoufflé à l'effort ou qu'on a diminué son activité physique parce que justement on ressent un essoufflement, ça paraît important de pouvoir détecter la BPCO. Et pour cela, il y a des mesures du souffle qui peuvent être réalisées.
Justement, comment on dépiste cette maladie ?
Alors, pour la dépister, on peut faire des mesures, des détections avec un appareil qui s'appelle un spiromètre, qui permet de mesurer l'obstruction sur les voies aériennes proximales ou distales. Et si cette obstruction est avérée, à ce moment-là, on peut faire un bilan beaucoup plus complet de la maladie avec une autre mesure dans des cabines de plétismographie pour mesurer également des volumes pulmonaires qui permet de voir les complications également éventuelles. Voir un spécialiste pour avoir un bilan complet de sa maladie et la prise en charge.
Et à quel âge on commence à dépister cette maladie ?
Les dernières recommandations nous indiquent de commencer à la dépister à partir de l'âge de 35 à 40 ans chez les fumeurs réguliers qui présentent des symptômes.
BPCO et tabac sont liés, docteur Frédéric Le Guillou, c'est la quantité de tabac ou les années de fumage qui comptent ?
Les deux. Ça peut être fumer peu et longtemps, également entraîne une irritation permanente de l'arbre bronchique, avec pour conséquence également une BPCO. Il y a aussi une susceptibilité individuelle, hein, puisqu'on n'est pas tous égaux. On peut favoriser une BPCO. On sait très bien que le tabagisme familial est également le tabagisme qu'on dit in vitro, c'est-à-dire une femme qui fume pendant sa grossesse. Il y a plus de risques que l'enfant derrière fasse une BPCO, d'autant plus s'il fume lui-même.
On a vu également que la BPCO touche de plus en plus les enfants. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une maladie d'adulte. Aujourd'hui, on apprend que cela peut commencer très tôt avec des lésions, notamment sur le poumon de l'enfant.
Oui, ça peut commencer très tôt. Je vous ai dit, même pendant la grossesse, hein, une femme qui fume peut avoir pour conséquence d'avoir des problèmes liés au tabac chez l'enfant. Et d'ailleurs, on voit à la naissance, hein, chez certaines femmes qui fument beaucoup pendant leur grossesse, un syndrome de sevrage du tabagisme chez l'enfant qui naît. Ça existe.
Docteur Frédéric Le Guillou, on a Flamine de Kinshasa qui nous a laissé un message Facebook. Elle nous demande, est-ce que la BPCO peut provoquer la mort du bébé chez une femme enceinte si le conjoint fume à côté d'elle ?
Alors, la mort, faut espérer que non, hein. J'ai pas de données là-dessus, mais le tabagisme passif est effectivement extrêmement nocif également pour la femme enceinte. On sait que le courant de fumée qui est rejeté par la cigarette, qui est posé dans le cendrier et qui circule tranquillement sous les narines et qui est inhalé ensuite par la personne, c'est celui-là qui est le plus toxique. Et c'est à cause de cela, ou grâce, ça dépend de celui dans lequel, où est-ce qu'on se place, qu'il y a eu toute la législation sur le tabagisme passif en France et dans les lieux publics.
On a aussi Médard qui nous demande comment un enfant qui ne fume pas peut-il être atteint et est-ce que cette maladie peut être comparée à de l'asthme ?
Alors, la BPCO et l'asthme, c'est deux maladies qui touchent effectivement les voies aériennes, qui peuvent être responsables toutes les deux d'une obstruction, mais dont le comportement n'est pas tout à fait la même. L'asthme, il y a également un terrain de susceptibilité génétique. Ça touche effectivement davantage l'adulte jeune, l'enfant, mais également le reste de la population. Il peut y avoir également des facteurs extérieurs tels que des allergènes qui peuvent aggraver l'asthme. Le tabagisme, lui, si vous voulez, il peut concerner, alors les enfants, c'est quand même à partir d'un moment où on a quand même fumé une certaine quantité de tabac, hein, donc c'est quand même davantage une pathologie de l'adulte, hein, même si effectivement ça peut arriver chez les enfants, mais ça reste assez exceptionnel et ça peut être dû à d'autres causes que le tabac également.
Et là on a parlé d'asthme, mais il y a la dépression, il y a l'anxiété qui sont aussi liées à cette maladie respiratoire, il y a la comorbidité qui est aussi à souligner pour la BPCO.
Oui, quand on veut évaluer la BPCO, il faut tenir compte effectivement du degré d'essoufflement hein, des gens, du nombre de poussées de la maladie qu'ils font par année, ce qu'on appelle des exacerbations, et il faut tenir compte de l'ensemble des comorbidités. Parce que, je vous ai dit que c'était le tabac essentiellement qui était responsable, donc énormément de comorbidités cardiovasculaires associées, mais il faut aussi savoir qu'il y a une anxiété, une dépression qui font partie de la maladie BPCO également, et il peut y avoir une ostéoporose, puisque que ce soit la BPCO ou le tabac, ça entraîne une diminution du capital osseux, avec pour conséquence une ostéoporose bien plus précoce, voire plus sévère que dans la population générale.
Une maladie donc qui est très grave, et aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous un patient qui est atteint justement de cette pathologie. Patrice Scanu, merci de venir témoigner au micro d'RFI. Vous êtes atteint de BPCO, cette maladie est une tueuse silencieuse, car les symptômes apparaissent quand la maladie est très avancée. Quand avez-vous été diagnostiqué ?
Mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur Le Guillou, je fais vraiment partie du morphotype idéal de malade du BPCO, puisque j'ai été diagnostiqué dans ma 45e année, après plusieurs alertes médicales, où globalement on me disait faut arrêter de fumer, vous avez une bronchite, voilà. Et on ne diagnostiquait pas en fait la BPCO, parce que c'était quelque chose de normal qu'un fumeur tousse.
Voilà, qu'est-ce
donc,
qu'il y a...
assez tardivement, et donc forcément dans un état au niveau pulmonaire qui était déjà extrêmement avancé.
Mais qui vous a finalement diagnostiqué, Patrice Scanu ?
Alors, l'histoire, pour faire court, j'ai eu plusieurs alertes. J'étais cadre supérieur, je travaillais dans la région parisienne sur Paris à l'époque, et j'ai eu plusieurs insuffisances respiratoires très fortes dans la nuit, en appelant SOS médecin. Donc, les deux premières interventions des médecins, c'est de me dire faut arrêter de fumer. Ça n'allait pas au-delà, puis ça passait, quelques antibiotiques, on arrivait à juguler l'infection pulmonaire en fait. Et puis une fois je suis monté au ski avec mes enfants pendant les vacances scolaires, et puis quand je suis arrivé à la montagne à près de 2000 mètres d'altitude, là vraiment j'ai fait une très très forte, ce qu'on appelle une désaturisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop d'oxygène. Enfin, je peux pas expliquer prémédicalement, mais on n'a plus trop d'oxygène à l'intérieur du sang. Et là, j'ai été hospitalisé en urgence à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et là, effectivement, je suis rentré dans un service de cancérologie thoracique et de maladies respiratoires. Et donc là, les gens ont effectué toute une batterie de tests, mais c'était presque trop tard, c'est-à-dire que s'en est suivi derrière une invalidité. Enfin, s'en est suivi, c'est vraiment quelque chose qui est assez violent, au-delà de l'aspect purement physique, c'est psychologiquement très très dur de se retrouver vraiment du jour au lendemain avec un diagnostic qui est quasiment définitif, parce que le mot chronique, il faut que tous les auditeurs comprennent bien que derrière le mot chronique, il y a le mot, je vais pas dire incurable, mais il y a le mot, ça va être dur d'améliorer sa situation. C'est le mot chronique qui dit exactement ça sur une maladie.
Absolument. Donc, allez-y, Patrice Scanu.
Non, voilà. Il y a plusieurs étapes. Effectivement, c'est une tueuse silencieuse, c'est une tueuse douloureuse. Non pas parce qu'on hurle de douleur, mais parce qu'il y a une souffrance psychologique du quotidien. Et il faut bien comprendre que les Anglais ont un proverbe "no free lunch". Et il y a pas de repas gratuit. Il faut que les fumeurs se disent il y a pas de cigarette gratuite.
Vous avez arrêté de fumer, Patrice Scanu ?
Oui, j'ai arrêté.
Avez-vous arrêté ?
Bah, objectivement, j'ai arrêté d'abord en essayant plusieurs fois, parce que c'est pas évident de réussir tout de suite, et que chaque échec rapproche de la victoire. Donc j'ai essayé plusieurs fois.
En vous faisant
d'abord,
aider
les tabacologues. Mm-hmm. Pardon ?
En vous faisant aider.
D'abord. Ouais, un petit peu d'abord par les tabacologues. Enfin, c'est comme beaucoup de choses. Au bout d'un moment, je pense que les chemins de la guérison, et Dieu sait si j'ai vraiment une grande reconnaissance par rapport au corps médical. Mais au bout d'un moment, on est aussi seul face à sa maladie. Et puis au bout d'un moment, moi j'avais des enfants très jeunes, Dieu merci, ils ont grandi. Mais à l'époque, le choix, c'est de savoir si je voulais voir grandir mes enfants ou pas. Donc, il y a un moment, même si c'est extrêmement difficile, et même si ça se fait aussi par une prise de poids, par d'autres d'autres choses. Mais j'ai arrêté, j'ai juste arrêté parce que j'ai décidé un jour d'arrêter. Voilà, et je dis aux fumeurs, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques jours très difficiles, mais après c'est tellement extraordinaire. Et si je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai arrêté de fumer.
Patrice Canu, on sait que l'arrêt du tabac est carrément obligatoire, en tout cas pour le traitement de cette maladie. Au-delà de cet arrêt du tabac, comment êtes-vous traité?
Moi, j'ai un traitement long cours avec ce qu'on appelle des bronchodilatateurs. Ça veut dire que... Alors déjà, moi, je suis BPSO depuis 15 ans. Donc, c'est un message que je donne aussi au BPSO de positivisme. On vit avec et on vit pas super bien, mais on vit. Et tant qu'on vit, on respire. Et tant qu'on respire, on fait confiance aux chercheurs et on se dit que demain sera meilleur. C'est mon côté positif. Alors, pour vivre au quotidien quand on est BPSO... J'ai des traitements au long cours avec ce qu'on appelle des bronchodilatateurs, donc on n'a pas tous forcément les mêmes doses. Donc globalement, pour l'imager, le docteur de Guillou le présentera sans doute bien mieux que moi, mais effectivement, ce qu'on appelle de la ventoline, c'est d'ailleurs de la ventoline. Alors pour certains, quand c'est sévère, ce qui est mon cas, en plus de... Donc j'en prends deux le matin, donc c'est des bouffées sur un spray, des bouffées d'oxygène qui ont la particularité, je crois, de permettre aux bronchioles restantes de se dilater, donc de prendre le plus d'oxygène possible. Donc c'est des bronchodilatateurs que je prends tous les matins. Et puis, à force de vivre avec ma maladie, je la connais quand même vraiment très très bien. Donc, si j'ai une infection pulmonaire, si... alors ensuite je peux faire des inhalations, toujours pareil, de ventoline ou de corticoïdes, enfin de cortisone. Et puis ensuite, si vraiment le deuxième ou le troisième jour ça va pas, là je fonce direct chez ma pneumologue. Parce que dans nos maladies, dans nos pathologies, on ne peut pas laisser trop traîner. Et il faut être très réactif. Et puis si au bout du quatrième ou cinquième jour, ça continue à pas aller, ben on termine en général dans un service de pneumologie dans les hôpitaux.
Les traitements dont vous parlez permettent de stopper l'évolution de la maladie, mais pas de guérir. Comment on apprend à vivre avec cette maladie? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire, par exemple?
Ce que j'ai pas pu faire quand ça m'est arrivé en 2003 et que Paul, le dernier mes fils, avait 4 ans, ce que je pouvais pas faire, c'était courir derrière un ballon avec lui. Voilà, ce que je pouvais pas faire, je suis du Sud, j'ai appris à plonger à mes grands, ce que je pouvais plus faire, c'était plonger avec mes enfants, leur apprendre à quel point la mer est belle dessous. Voilà, donc il y a des tas de choses, et la vraie souffrance... Alors, message pour les fumeurs, sur les paquets de tabac, il y a écrit la fumée provoque une maladie lente et douloureuse. Je pense que la douleur, elle est essentiellement psychologique, parce qu'on est confronté dans son quotidien à des tas de choses qu'on peut pas. Un regard extrêmement dur de la part des bien portants, parce que on souffle, ou parce qu'on grossit, ou parce que quand on est invité à un deuxième étage ou un troisième étage, on met 20 minutes pour monter ou 10 minutes. Et les gens ne comprennent pas parce qu'on a deux bras, deux jambes, et donc une espèce de souffrance psychologique qui n'est pas évidente à assumer. Donc comment on vit? D'abord on vit, parce qu'il n'y a pas plus beau que la vie. Ensuite on vit en espérant qu'on puisse porter un témoignage. Et si aujourd'hui il y a juste un fumeur qui jette ses cigarettes à la fin de l'émission, je pense que le docteur le Guillaume aura gagné, et moi aussi. Donc voilà, on en aura sauvé un.
On
et
espère,
ensuite,
en
non, j'espère. Et voilà. Donc non, mais on vit en voulant ralentir, c'est-à-dire en acceptant l'idée à un moment, faire le deuil. C'est pas évident. En acceptant l'idée qu'on ne sera plus jamais ce qu'on était avant, et en se disant que il y a autre chose à reconstruire. Je manage des projets industriels. Puis après, j'ai vécu en faisant des photos de coquelicots, en jouant au golf, en faisant d'autres choses.
Et ce que vous dites est très intéressant, parce que c'est la journée mondiale de la BPCO, et le thème de cette année, c'est ne plus lutter, mais apprendre justement à vivre avec.
Bien sûr. Il faut accepter. Au bout d'un moment, si on veut être en paix, il faut accepter ce qu'on est. Il faut se dire que, sans rentrer dans des philosophies religieuses, il faut se dire qu'on est tous là pour avoir un parcours. C'est le nôtre. On ne peut pas changer les cartes. On a fumé. C'est pas gratuit. On le paie. Il faut pas vivre avec le passé. Il faut accepter ce qu'on est. Et puis parfois, ce qu'on est, on arrive à vivre des choses assez, assez belles et assez intéressantes.
Et c'est un beau message que vous lancez. Cet handicap, il est très dur à vivre. On le sent. Vous le décrivez très bien. Le regard des autres, notamment. Et vous utilisez les réseaux sociaux pour sensibiliser. C'est bien ça?
Oui, en fait, la maladie, elle isole un peu, c'est-à-dire que Quand on est, moi j'ai vécu 20 ans à Paris, quand on est à Paris, il y a des réseaux, il y a des structures. Quand on est en province, parfois on se retrouve un petit peu seul. On a un but, c'est les enfants, ils grandissent, et puis ils passent leur bac, et puis ils partent dans des facs ou dans des universités. Et puis un beau matin, vous êtes avec TGV, le dernier de vos fils, il part étudier à Paris. Et là, vous rentrez le soir, il n'y a plus rien. Et donc, c'est un peu violent. Et il y a quelques années en arrière, effectivement, alors que c'est pas du tout quelque chose qui au départ m'intéressait, je suis allé j'ai lancé quelque chose sur Facebook, pour pas le cacher, et où j'ai commencé un petit peu à raconter ce qui s'était passé. Je me passionnais pour le golf, parce que c'est vraiment une activité qui permet d'avoir une activité dans la nature, avec un rythme cardiovasculaire adaptable à tout individu, et donc c'est vraiment pas violent. Et puis, de fil en aiguille, pour pas monopoliser l'antenne, j'ai eu 500, puis 1000, puis 2000, puis 10 000, puis 20 000 followers, donc 1000, 40 000. Aujourd'hui, j'ai à peu près tout média confondu, tout réseau confondu, à peu près 50 000 suiveurs.
Une belle vitrine, donc, en tout cas, pour communiquer sur cette maladie. Quel message vous souhaitez lancer, Patrice Scanu?
Je crois que je l'ai dit en préambule, c'est-à-dire, il n'y a pas de cigarette gratuite, ça n'existe pas. Voilà. Le message, c'est de dire, oui, lisez bien ce qui est écrit sur les paquets de tabac, c'est pas par hasard. C'est des vrais messages forts. Alors, je sais bien que, en général, quand on est fumeur, c'est quelque chose qu'on n'écoute absolument pas donc, il faut pas faire un prosélytisme anti-fumeur. Je dis simplement qu'il faut prendre la pleine conscience que, à un moment ou à un autre, véritablement, c'est une araignée qui tisse sa toile, elle prend le temps qu'il faut, mais à un moment ou un autre, on le paie. Donc si on peut s'en dégager rapidement, si on peut avoir une hygiène de vie, et voilà. Donc ça, c'est pour les non-fumeurs. Et puis pour les gens atteints de la maladie, ce que j'ai à dire, c'est que ça m'est arrivé il y a 15 ans en arrière, en 2003. Le dernier de mes fils avait 4 ans, il en a 19. J'ai vu grandir. J'ai partagé plein de joies avec eux. Et ça vaut vraiment le coup le matin de se lever, de faire confiance au Toubib et de ne pas hésiter pour les non déclarés d'aller vous faire dépister. Voilà, tout simplement.
Merci en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Patrice Scanu, et bon courage surtout pour la suite.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé parle aujourd'hui de la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive, une toux grasse avec des crachats combinés à un manque de souffle. C'est une maladie grave qui touche surtout les fumeurs, mais aussi en Afrique parfois les femmes qui font la cuisine ou les personnes qui se chauffent avec des foyers ouverts à base de bois et de charbon. Nous retrouvons justement au Togo le docteur Stéphane Adam Bounou, pneumologue et spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil du CHU de Lomé au Togo. Bonjour docteur.
Bonjour.
Docteur Stéphane Adam Bounou, on parle de plus de 3 millions de personnes touchées en France. Est-ce qu'il y a des chiffres autour de cette maladie au Togo?
Alors, par rapport à la BPCO, il faut dire que nous n'avons pas d'études sur la prévalence au plan national, mais la prévalence hospitalière est autour de 0,36%. Donc, sur une année, nous avons en hospitalisation et en consultation 0,36% des consultants et des hospitalisés qui présentent une BPCO. Et le fait remarquable, c'est que parmi cette population de BPCO, vous avez à peu près 60% qui n'ont pas de paquet tabagique. Donc, c'est essentiellement des patients qui ont une exposition à la biomasse, vous venez de le dire.
Oui.
Donc, le fait d'utiliser la fumée de bois pour préparer, par exemple, le fait que certaines professions également exposent à la BPCO, et les 40% sont des personnes qui ont un paquet tabagique. Actif ou passif.
Donc si on veut être très concret, le fait de faire du feu de bois dans une pièce fermée où il n'y a pas d'évacuation pour la fumée, c'est un risque toxique.
C'est un risque toxique qui progressivement amène effectivement à une BPCO.
Donc les femmes font beaucoup la cuisine et il y a aussi les enfants qui sont touchés. J'ai lu une étude de l'OMS qui explique que plus de la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans dus à la pneumonie sont dus justement à cette pollution de l'air intérieur. Est-ce qu'il y a des sensibilisations autour de cette problématique au Togo?
Oui, alors, au Togo, nous avons le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, ils mènent des actions dans ce sens pour sensibiliser la population sur les comportements pour améliorer leur environnement et leurs conditions de travail.
Alors, on ne peut pas leur demander de changer de mode de cuisson de façon brutale ou de changer de métier, mais que faut-il faire au quotidien à ce niveau ?
Mais au quotidien, déjà, lorsque on est obligé d'utiliser le feu de bois, par exemple, pour faire la cuisine, il vaut mieux le faire à l'air libre plutôt que dans un environnement fermé. Ça permet de réduire le risque d'exposition.
Alors, on met du temps à diagnostiquer cette maladie, docteur Adam Bounou. Comment diagnostiquez-vous vos patients ? Est-ce que vous rencontrez, vous aussi, des difficultés à ce niveau ?
Alors, la difficulté qu'on rencontre, c'est que, vous savez, la BPCO se présente un peu comme l'acte. Donc, ils ont le même tableau clinique, les mêmes signes. Et donc, lorsque le patient n'a pas un antécédent d'acte connu, on a parfois du mal à faire la part entre une maladie asthmatique et une BPCO. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une forme assez évoluée dans les cas sévères, le diagnostic est facile. Nous disposons d'explorations fonctionnelles respiratoires pour faire le diagnostic de l'asthme et le diagnostic de la BPCO au Togo. Donc, ce n'est pas tant les moyens diagnostiques qui manquent, mais c'est parfois la présentation clinique du patient qui peut parfois prêter à confusion.
Est-ce qu'ils viennent vous consulter à temps ?
Malheureusement, non. Malheureusement, les malades BPCO, on les voit souvent à un stade assez tardif de la maladie parce que, justement, certaines prennent ça pour de l'acte et font de l'automédication. Et c'est lorsque la maladie persiste ou s'aggrave qu'ils viennent en milieu spécialisé et parfois il est trop tard.
Et arrêter de fumer, c'est une des conditions rédhibitoires de traitement pour la BPCO. Comment se passe l'aide au sevrage tabagique au Togo ?
Ah oui. Alors déjà, on a effectivement aussi un programme de lutte contre le tabac qui fait de la sensibilisation auprès de la population, surtout la population jeune. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait, c'est qu'au-delà du tabac, il y a un autre fléau qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est la consommation de chicha. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas, la fréquence hospitalière de la BPCO est autour de 0,36%, mais on craint qu'avec cette consommation exagérée de chicha dans les 10-15 ans à venir, on aura une flambée de BPCO.
On peut rappeler d'ailleurs que la chicha est aussi dangereuse est autant dangereuse que la cigarette, c'est ce qu'il faut rappeler. Même plus dangereux, sinon plus. Exactement.
Beaucoup plus dangereux que la cigarette. Donc, l'aide au sevrage se fait en service de pneumologie. Les patients qui le désirent se présentent donc en consultation et nous avons un confrère qui est habilité, qui a une formation en tabacologie, qui aide les patients qui le désirent à progressivement arrêter de fumer.
Et concernant ce sevrage tabagique, est-ce que les patchs, les gommes aussi sont disponibles pour aider les patients à ce sevrage tabagique ?
Pour ces patients-là, on fait des commandes via certaines pharmacies. On fait des commandes de patchs par l'intermédiaire de certaines pharmacies. Les cigarettes électroniques sont disponibles à certains endroits, donc les patients peuvent s'en procurer à ces endroits-là.
Et concernant le dispositif de traitement de la BPCO, on a parlé de bronchodilatateurs, de corticoïdes, d'anti-inflammatoires pour traiter cette maladie. Comment vous traitez-vous les patients ?
Le traitement de la BPCO se fait en fonction du stade. C'est-à-dire que lorsque le patient vient, on repère l'histoire clinique, on fait une spirométrie pour évaluer d'abord son niveau de sévérité. Est-ce qu'il est léger, modéré ou très sévère ? Et en fonction du traitement adapté à la sévérité de la maladie. Pour les patients qui ont une BPCO légère à modérer, c'est plutôt mieux. Mais les patients qui sont sévères, voire très sévères, c'est un peu plus compliqué. En ce moment-là, on peut parfois avoir recours à l'oxygénothérapie de longue durée, c'est-à-dire que le patient doit avoir en permanence une bouteille d'oxygène pour pouvoir s'oxygéner. Et on ne dispose pas de bouteille d'oxygène portatif. Donc, ce sont des patients qui sont condamnés à rester sur place, à faire des locations d'obus d'oxygène ou bien d'extracteurs pour pouvoir être oxygénés.
C'est donc une maladie très grave. Quel message vous souhaitez lancer aujourd'hui, docteur Stéphane Andambounou, sachant que c'est la journée de cette maladie grave, la BPCO?
Alors, mon message à l'endroit de la population africaine en général et togolaise en particulier, c'est de dire que la BPCO est une maladie grave, mais qui, heureusement, est évitable. Et quand il y a une maladie qui peut être évitée, il faudrait qu'on mette l'accent sur la prévention. La prévention, ça passe par le fait que nos populations disent non au tabac, disent non au chicha ou à la chicha, que la population adopte de meilleurs comportements pour éviter l'exposition à la biomasse, notamment donc préférer l'utilisation des gaz par rapport au feu de bois, utiliser des équipements de protection individuelle lorsque on a une profession qui expose au risque de BPCO. Et puis, pour les malades qui sont malheureusement déjà atteints de la BPCO, c'est de consulter à temps et de se faire suivre régulièrement par les médecins pneumologues.
Merci beaucoup, docteur Stéphane Andambounou.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
On a Olivier qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Olivier a un témoignage à nous apporter et quelques questions à poser au docteur Frédéric Le Guillou. Bonjour Olivier.
Bonjour madame.
Olivier, on vous écoute.
Oui, en fait, moi je personnellement connais cette maladie au travers mon grand-père. Mon grand-père qui en a souffert plus ou moins pendant 10 ans. Et jusqu'à ce que ça l'a conduit à la mort. Alors, ma question est celle-ci, est celle de connaître, puisque le traitement de cette maladie est palliatif, est-ce que peut-on dire que lorsqu'on souffre de cette maladie, on est condamné à la mort?
Docteur Frédéric Le Guillou, est-ce que cette maladie, finalement, est inévitablement amené à la mort?
Bonjour Olivier. Non, la maladie n'est pas vouée à la mort. Il y a effectivement, la BPCO peut réduire l'espérance de vie, ça on le sait. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en modifiant son comportement, en étant observant vis-à-vis de son traitement, en mettant en place un certain nombre de règles de prévention qui ont été rappelées par mon collègue du Togo, on améliore considérablement la survie. Et il faut voir que le patient doit être vu non pas simplement comme quelqu'un qui prend un traitement, mais doit devenir acteur et partenaire de sa santé. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire par lui-même. 1. Arrêter de fumer, si c'est possible. 2. Avoir un exercice physique régulier. Et on sait que le meilleur des traitements, c'est l'exercice physique et l'entretien de sa capacité respiratoire. On a tous un capital souffle, on a tous à l'entretenir. S'il est abaissé à cause de la maladie, on peut récupérer du capital souffle grâce à l'exercice physique. Ça, c'est un point extrêmement important. Une alimentation équilibrée également permet d'améliorer les choses. La prévention avec les vaccins, que ce soit en tout cas en Europe, peut-être moins en Afrique, mais la vaccination antigrippale, et la vaccination pour éviter un certain nombre de bronchites qui existent, la vaccination antipneumocoxique. Ça, c'est des éléments clés. Les bronchodilatateurs, comme ils ont été évoqués, effectivement peuvent améliorer la qualité de vie. Et on sait très bien que dans les stades modérés ou légères à modérés de BPCO, on améliore la fonction respiratoire en arrêtant de fumer et en ayant une activité physique, et les traitements permettent d'améliorer la qualité de vie. Donc c'est pas une fatalité. On voit des gens qui auraient dû être insuffisants respiratoires s'ils avaient suivi la courbe du déclin classique de la fonction respiratoire que tout le monde a, puisque la fonction respiratoire chute avec l'âge, et que un des éléments, ou quasiment l'élément essentiel de la limite de la survie humaine au-delà de 120 ans à l'heure actuelle, c'est le souffle, puisqu'il diminue de façon naturelle avec l'âge. Mais en ayant un exercice physique régulier, on permet d'entretenir ça et d'éviter cette chute.
Alors, le grand-père d'Olivier est malheureusement décédé, mais il avait une autre question, parce que son grand-père fumait le tabac d'une façon différente. Olivier, expliquez-nous comment votre grand-père fumait, consommait ce tabac.
En fait, mon grand-père ne fumait pas le tabac par En fait, les tabacs que nous voyons, tout le monde fume, ils fument une sorte de tabac qui est beaucoup plus courant ici en Afrique. On le fume par la voie, par les narines, quoi.
Donc il n'est pas brûlé, en fait, il est aspiré.
Ouais, il n'est pas brûlé, on le met directement aux narines.
Mm-hmm. D'accord, c'est le tabac à priser, en fait.
Comprennent au moins ce que je suis en train de dire.
Mmh. Oui, c'est le tabac qui justement, c'est une forme de tabac qui est inhalé. On l'inspire directement par le nez sans qu'il soit brûlé. Alors, docteur Frédéric Le Guillou, il y a différentes manières de consommer le tabac, mais il y a aussi des risques, inévitablement.
Bien sûr, il y a des risques donc liés à la façon de fumer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette roulée, par exemple, est plus toxique que la cigarette industrielle parce que elle est moins tassée, hein, elle est moins tassée, et donc les produits de combustion incomplète sont plus importants, et c'est ça qui est toxique pour le poumon et pour les bronches. Et c'est comme une chaudière mal réglée, en fait. Hein, donc le tirage est moins bon et c'est plus toxique pour le patient, le fait de fumer une cigarette roulée. Ce qui est encore plus toxique, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la chicha. Mm-hmm. Hein, c'est tout ce qui est inhalé. On estime qu'une chicha, à peu près, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes en termes de toxicité pour le patient. Donc c'est colossal. Le cannabis est également extrêmement toxique parce qu'il est mélangé avec du tabac, parce qu'il est beaucoup moins tassé et parce que la façon de fumer est complètement différente. On inhale beaucoup plus profondément, beaucoup plus longuement, c'est pareil avec la chicha d'ailleurs, et donc on va inonder complètement toutes ces petites alvéoles pulmonaires avec les produits toxiques qu'il y a dans le tabac, puisqu'il y a à peu près 3000 substances dans la fumée de cigarettes, et ça peut et c'est responsable de pathologies plus graves, plus tôt et avec une espérance de vie plus limitée.
Et parmi les autres formes de tabac non fumé, là on vient de citer le tabac à priser ou alors la chicha et la cigarette roulée, il y a aussi ce qu'on appelle le snus.
Le snus, oui, c'est en Suède surtout.
Voilà, en Suède exactement, oui. En Norvège, bon, c'est quoi, c'est du tabac?
Le snus, c'est un peu comme le tabac, effectivement, à priser ou à chiquer, qui existait autrefois. Les complications sont moins pulmonaires, normalement, et beaucoup plus au niveau buccal et au niveau du nez ou au niveau des voies aériennes supérieures.
Davantage. Mais les risques pour la santé sont...
On ne fait que transposer le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le tabac, quand même, c'est quand même le seul produit de consommation courante qui tue un de ses consommateurs sur deux. On ne verrait jamais ça pour n'importe quel produit. Ce serait un scandale sanitaire. Et c'en est un, le tabac. C'est un vrai scandale sanitaire. L'équivalent, le tabac, à l'heure actuelle, c'est à peu près 18 Airbus A380 qui disparaissent tous les jours de la planète.
C'est énorme. Voilà. Olivier, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Une autre question. Est-ce que on peut souffrir de cette pathologie si on ne fume pas?
Oui, tout à fait.
Le non-fumeur peut aussi en souffrir.
Oui, tout à fait. On peut développer une BPCO non due au tabac. On l'a dit tout à l'heure, certains modes de cuisine, hein, ça on le voit effectivement en Afrique ou en Asie du Sud-Est, hein, la combustion de la biomasse en particulier, c'est-à-dire le feu de bois ou le charbon pour faire de la cuisine en étant juste au-dessus du foyer, fait respirer des fumées qui sont toxiques et on peut déclencher une BPCO. On peut déclencher une BPCO aussi. On le voit en Europe, ce qu'on appelle nous la BPCO agricole, qui sont liées généralement au fait qu'autrefois il y avait des tracteurs sans cabine et avec un empoussiérage non négligeable, et surtout il y avait énormément de pesticides et de produits phytosanitaires qui étaient répandus, et l'agriculteur qui était sur son tracteur en respirait énormément, et c'est également toxique pour le poumon, ça on le voit. Et puis dans les pays à forte concentration industrielle qui rejette énormément de fumée toxique. On a également en Chine, par exemple, hein, on a des BPCO liés à la pollution atmosphérique. Oui.
Merci beaucoup Olivier pour votre appel et bonjour à nos auditeurs de Kinshasa. Docteur Frédéric Le Guillou, on en revient à la question du traitement. Il y a la fin du tabac, bien sûr, mais accompagné d'exercices physiques, quelle activité faire quand on manque de souffle?
Alors, on dit bien activité physique, on ne dit pas sport, d'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'aller faire des athlètes de la BPCO de nos patients. S'ils en ont envie, ben, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus une finalité en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà reprendre un certain nombre de gestes de la vie courante. Marcher. Tout simplement marcher. Marcher tous les jours. Alors au début c'est difficile parce que la pathologie entraîne un déconditionnement, hein, c'est-à-dire que moins on fait d'activité physique, plus on est essoufflé, moins on fait d'activité physique, et d'une maladie respiratoire ça devient une maladie musculaire. Donc il faut remettre son muscle un petit peu en marche. Donc marcher, faire une activité qui plaît, par exemple, au lieu d'apprendre sa voiture pour aller chercher sa baguette de pain, c'est de marcher. Si on est dans une ville, c'est de s'arrêter à l'arrêt de bus d'avant et de marcher le reste du temps, ou à la station de métro. C'est ça, c'est remettre de l'activité physique dans son quotidien.
Bouger. Alors, bouger. Docteur Frédéric Le Guy, on arrive à la fin de cette émission. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu des femmes qui sont de plus en plus touchées, et puis en plus, elles sont touchées plus durement. Elles touchent beaucoup de monde, on en parle peu, on la connaît peu, cette maladie, mais la BPCO, on voit qu'elle se rajeunit et qu'elle se féminise. Est-ce que vous pensez que ça peut aider dans le dépistage ou dans la prévention ?
Oui, ça c'est une des problématiques également de la détection de la BPCO, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. À l'heure actuelle, les femmes sont de plus en plus touchées et quasiment à égalité avec les hommes. Donc, on a à peu près en France 45% de femmes, 55% d'hommes, et on voit une diminution chez les hommes et une progression nette chez les femmes. Donc, et les médecins n'y pensent pas forcément chez la femme. Ça c'est lié au mode de vie, à l'inondation des cigarettes blondes à partir de la Seconde Guerre mondiale et après la révolution culturelle des années 60-70, la liberté qui était associée au tabagisme à ce moment-là. Et on voit chez ces femmes-là maintenant des vrais BPCO sévères parce que la femme à tabagisme égal a une sensibilité supérieure. On n'est pas égaux. La BPCO est une maladie inégalitaire. On le voit bien entre les hommes et les femmes et font des formes plus sévères plus tôt avec plus de conséquences dans leur vie. Beaucoup plus les symptômes ne sont pas exprimés de la même façon chez la femme que chez l'homme, puisque la femme va surtout dire qu'elle est fatiguée et c'est comme ça qu'elle exprime son essoufflement. Et donc il faut bien poser les questions pour pouvoir bien la détecter. Sinon on passe complètement à côté et la maladie évolue et on arrive à des diagnostics tardifs et c'est regrettable.
Merci beaucoup docteur Frédéric Le Guillou pour tous ces éclairages. Merci également à France Bleu La Rochelle de vous avoir accueilli et permettre donc ce direct. Je rappelle que vous êtes pneumologue et président de l'association BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour, docteur Bernard Pécoul.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur exécutif de la fondation DNDI, l'initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées. Cette organisation de recherche scientifique développe des médicaments pour lutter contre les maladies qui affectent les populations les plus pauvres, notamment la maladie du sommeil. Elle fait partie de ces maladies tropicales négligées. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Écoutez, la maladie du sommeil est une maladie très très grave puisque elle est transmise par un parasite et lorsque l'on est atteint sans traitement, 100% des formes sont létales et difficile à prendre en charge aujourd'hui puisque il faut hospitaliser la grande majorité des patients pour délivrer un traitement compliqué. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de développé en partenariat avec Sanofi et de nombreux autres partenaires, notamment en Afrique centrale, un traitement beaucoup plus simple, par voie orale, qui consiste à une prise par jour pendant 10 jours avec la nourriture et qui permet de couvrir tous les stades de la maladie.
Alors, rappelez-nous juste quels sont les symptômes de cette maladie et les stades de la maladie pour qu'on comprenne le fonctionnement de ce nouveau médicament.
Voilà. Donc cette maladie a deux stades. Un premier stade où finalement les patients ont de la fièvre, des maux de tête, donc pas très caractéristiques, souvent traités comme paludisme. Mais en fait c'est le début de la maladie. Et dans ce stade il n'y a pas encore une atteinte du système nerveux. Donc il y a un traitement injectable qui était utilisé jusqu'alors. Mais il faut savoir que la plupart des patients pour prouver cela il faut effectuer une ponction lombaire qui est un geste compliqué et douloureux à tous les patients identifiés pour vérifier que les patients ont des parasites dans leur système nerveux et donc dans le liquide céphalorachidien. Et lorsqu'ils sont à ce stade-là, il faut qu'ils soient hospitalisés et jusqu'alors ils doivent recevoir un traitement sous forme de perfusion pendant une période de 10 jours à l'hôpital, ce qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut savoir que cette maladie est essentiellement prévalente en Afrique centrale, dans des zones très reculées, dans des villages très reculés. Donc la grande innovation, c'est de pouvoir traiter les deux stades de cette maladie avec un traitement oral, a priori au niveau du village.
Alors parlez-nous justement du fonctionnement de ce traitement dont on parle pour la maladie du sommeil, c'est le fexinidazole.
Voilà, donc ce produit s'appelle fexinidazole. Nous avons travaillé sur ce produit depuis 12 ans, produit qui a été identifié initialement dans un laboratoire pharmaceutique, puis passé toutes les étapes de développement. Et aujourd'hui, nous avons présenté le dossier aux autorités européennes qui l'ont approuvé il y a quelques jours. Donc ce médicament devrait être disponible pour traiter toutes les formes. Donc il s'agira de dépister la maladie, de confirmer le diagnostic, puisqu'on a besoin de voir le parasite avant de traiter, et de délivrer ce traitement qui pourra être délivré de manière beaucoup plus simple, parce que c'est finalement un traitement oral pendant 10 jours, qui doit être pris avec la nourriture. C'est la seule caractéristique de ce traitement.
Et quelle est la stratégie de lutte justement du DNDi contre la maladie du sommeil ?
Alors la maladie du sommeil est une maladie qui est une très bonne candidate à l'élimination, puisque il faut savoir que le réservoir de cette maladie, ce sont les hommes. Donc lorsqu'on traite les gens qui sont infectés, alors non seulement on les guérit, mais on diminue le risque de transmission, parce que la mouche qui transmet cette maladie, qui est la mouche tsetse, n'est que le vecteur. Donc il lui faut trouver un homme infecté pour pouvoir transmettre la maladie à une autre personne infectée. Donc en fait, la stratégie de DNDi, mais avec l'Organisation mondiale de la santé et avec les programmes de contrôle nationaux, c'est de traiter, identifier et traiter un maximum de gens afin d'interrompre la transmission et d'éliminer cette maladie.
Et quelles sont les autres maladies négligées que vous tentez de mettre en lumière et surtout développer des médicaments ?
Alors nous travaillons, DNDi travaille sur la leishmaniose qui est présente en Afrique, qui est présente en Asie, qui est présente en Amérique latine. Nous travaillons sur la maladie de Chagas qui est présente essentiellement en Amérique latine. Mais aussi nous avons des programmes sur des populations complètement négligées que sont les enfants atteints de sida par exemple, qui sont aujourd'hui très peu fréquents en Europe et aux États-Unis, mais qui sont bien sûr très fréquents en Afrique et pour lesquels il n'y a pas les formulations adaptées pour traiter ces jeunes enfants. Donc ça aussi fait partie de nos programmes.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, docteur Bernard Pécoul. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la fondation DNDi, l'initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, à Cétoussa Maki, Ophélie Lassente et Didier Bleu. Merci à mes invités, Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association BPCO sur la bronchopneumopathie chronique obstructive, et également à Patrice Scanu qui est atteint de la BPCO. Demain, dans Priorité Santé, nous verrons comment vaincre l'anxiété. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone de l'émission 33 1 84 22 75 75. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous interpeller sur notre page Facebook de l'émission Priorité Santé.
santé avec Suno Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre